Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Avez-vous déjà été séduit par une odeur? Sans aucun doute, mais comment cette odeur peut-elle déclencher chez nous l'acte d'achat? Comment une marque peut-elle se bâtir une signature olfactive? Réponse avec Pascal Charlier, directeur général de Santerre. Votre entreprise est leader en Europe du marketing olfactif. Santerre est une société toulousaine qui appartient au géant américain du même nom. Vous en êtes le responsable sur Toulouse, le dirigeant de cette succursale européenne. Bonjour Pascal Charlier.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que le marketing olfactif ?
Alors, le marketing olfactif est une technique qui relève du merchandising et du marketing, qui permet à des points de vente, à des enseignes, à des marques, d'intervenir et d'agir sur le comportement que les consommateurs vont avoir au contact de la marque ou du point de vente.
Alors au contact de l'odeur, c'est ça, et directement dans notre cerveau.
Absolument, c'est-à-dire que la présence d'une senteur dans un espace de vente, mais aussi dans un hôtel, dans un fitness, dans toutes sortes d'établissements fréquentés par le public, va provoquer des interactions mentales plus ou moins conscientes auprès du client, qui va se remémorer des souvenirs, qui va bénéficier d'associations positives mentales, qui va davantage passer de temps parce que ça va agir bien entendu sur son bien-être, qui va tourner la tête pour voir d'où vient la senteur. Et donc la présence d'une senteur dans un espace ouvert au public crée généralement des modifications dans le comportement du consommateur, plus ou moins subliminales, plus ou moins conscientes, qui vont de « je me rappelle de l'endroit où je suis déjà allé, et cet endroit m'est familier, je me sens bien, donc je passe davantage de temps dans l'espace.
» J'achète.
J'achète. Ou je passe davantage de temps, donc je suis davantage soumis à la tentation d'acheter. Quand on passe 15 minutes dans un point de vente, la tentation est supérieure à un séjour de 10. Je reconnais la marque, de Singapour à Düsseldorf et à Barcelone, donc je me sens moins à l'hôtel ou moins à l'étranger grâce à cette senteur qui recrée une sorte de connivence ou de familiarité. Je suis rassuré. Et puis je vis des expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la présence et l'omniprésence d'Internet dans le processus d'achat de la plupart des clients, le client lambda qui veut acheter, qui veut se présenter sur un point de vente, recherche sur le point de vente quelque chose de différent qu'il ne trouverait pas sur Internet. Et donc le point de vente, en tant que structure commerciale, doit proposer au client ce qu'on appelle dans notre jargon des expériences, des vécus, des ressentis, que le client n'obtiendra pas sur Internet. Donc le fameux rapport qualité-prix qui présidait à l'acte d'achat dans les années 80, il fallait que le magasin soit bien positionné, que le prix soit correct et que la qualité soit au rendez-vous. C'est toujours nécessaire, bien entendu, mais ça n'est plus suffisant, parce que le rapport qualité-prix, vous le trouvez très aisément sur Internet.
Bien sûr.
Donc les clients qui vont sur les points de vente aujourd'hui, et c'est là le grand défi auquel les points de vente doivent faire face.
Ils veulent autre chose.
Ils veulent autre chose. Ils veulent un séjour ludique, ils veulent des émotions, ils veulent vivre ce qu'on appelle des expériences, c'est-à-dire trouver sur le point de vente des choses un peu plus émotionnelles que ce qu'ils trouvaient sur Internet.
Mais ça va très loin alors en fait, c'est un outil hyper puissant.
Oui, mais qui n'est pas le seul là, l'arsenal entre guillemets dont disposent les points de vente au niveau du marketing, ça n'est pas le seul. On parle de la vitrine, on parle de la musique, de la senteur, de la forme des meubles qui aujourd'hui sont beaucoup plus arrondis et non plus anguleux. On parle aussi
le feng shui passé par là.
Absolument, on parle de l'éclairage, on parle du parcours client, c'est-à-dire de la manière dont le client doit circuler à l'intérieur.
Ah, on pourrait donner des noms, on ne le fera pas, mais
bien entendu,
vous y avez tous pensé. De quoi on veut parler ?
De quoi je veux parler, absolument. Donc tout ça, ce sont des techniques qui consistent à faire en sorte que le client trouve dans un point de vente un niveau de confort, un niveau d'émotion, un niveau d'expérience dans le cadre d'un parcours client qu'il ne trouverait pas ailleurs. Mmh. Et ça permet aussi à un point de vente qui appartient à une marque de se démarquer d'autres marques grâce à ces éléments d'identité très personnels qui existent chez lui et qui n'existent pas ailleurs. Parce qu'il faut savoir que la plupart des grandes marques, en particulier dans le prêt-à-porter, depuis des années, utilisent des règles marketing dites universelles. Mmh. Chacun a la même cible, chacun a le même sourcing. Tout le monde va fabriquer dans les pays à bas coût. Mmh. Si la mode est à l'orange, tout le monde va proposer de l'orange. Mmh. Si le chemisier doit être à 29 euros, tout le monde va proposer un chemisier à 29 euros. Et donc, il est de plus en plus difficile pour le client, avec ses standards très uniformes, de retrouver de l'ADN de marque dans les différents points de vente. Et ça, c'est un phénomène qui date déjà d'une vingtaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des directeurs marketing de ces grandes marques ont recommencé à mettre dans leur marque et dans leur réseau de l'ADN et de l'identité de ce réseau pour se différencier des autres et ainsi se ressortir de ces grands standards
universels. Sortir du lot, en fait.
Absolument. Ouais. Absolument.
Alors, il y a énormément de choses à dire sur votre entreprise, sur la naissance à Toulouse, mais j'aimerais, puisque nous sommes en plein dans le cœur du sujet, que vous nous expliquiez comment on construit une signature olfactive pour une marque. Vous travaillez à partir de quoi? Bon, déjà, j'imagine qu'il y a tout un brainstorming autour de la marque, du concept, etc. Et après, concrètement, matériellement, comment ça marche?
Alors, ça passe par trois phases. La phase numéro un, comme vous venez de le rappeler, c'est effectivement de comprendre avec les interlocuteurs et les responsables de la marque quelles sont ce que l'on appelle les valeurs de la marque, les missions de la marque. Donc, c'est une discussion un peu interactive qui peut durer 2-3 heures, assortie d'un certain nombre de documents que généralement les directions marketing ont. Et à partir de tout ça, on essaie d'évoquer et de se mettre d'accord sur un certain nombre de mots-clés ou de valeurs-clés de la marque. Okay ? Donc la marque doit véhiculer, par exemple, l'élégance, la famille, la réassurance, la sportivité, l'exotisme ou que sais-je encore. On se met donc d'accord sur un certain nombre de valeurs-clés, de mots-clés qui sont censés évoquer les valeurs de la marque et on se met tous d'accord là-dessus. Ensuite, on va travailler avec des partenaires parfumeurs de grâce sur la création de parfums qui contiennent des notes, des composants qui eux-mêmes sont en relation socioculturelle avec ces valeurs de marque.
D'accord, c'est-à-dire qu'un parfum, par exemple, peut évoquer la famille.
Par exemple. Donc je vais prendre un exemple qui est un peu basique, peut-être pour que chacun puisse comprendre comment ça fonctionne, mais on dit par exemple que la vanille est une senteur qui rappelle très très souvent l'enfance, la prime enfance. Donc qui dit la prime enfance de manière inconsciente dit la
famille,
maman,
voilà,
la maternité, et qui parle de mère et de maternité parle de protection, de réassurance. Et donc par itération successive, la vanille peut générer un sentiment de réassurance plus ou moins inconscient chez le client.
Donc ça, pour une compagnie d'assurance par exemple, on pourrait la parfumer
ça
à la vanille.
Ça pourrait fonctionner, même si c'est un exemple bien entendu un
bien
peu
sûr, caricatural. Évidemment. Donc à partir de là, vous déterminez donc l'odeur qui
on
va
fabrique donc une senteur qui est constituée d'un certain nombre d'éléments. Alors bien entendu, il faut que on récupère la totalité des éléments de la marque, à savoir le mobilier, la nature de la clientèle, son positionnement sur le marché. Enfin, tous ces éléments-là nous permettent de déterminer une architecture de marque. Et ensuite, il faut une architecture de parfum, excusez-moi. Et ensuite, il faut qu'à l'intérieur de cette senteur, les éléments olfactifs soient en correspondance parfaite avec les valeurs. Et ça, c'est la phase numéro 3. Donc, on va déterminer ensuite par des tests sur des sites pilotes, deux ou trois sites pilotes sur une marque généralement. On va interviewer les clients en leur demandant si cette note qu'ils perçoivent correspond aux différents mots-clés que nous avons en tête. Et donc, on dit explicitement aux clients, vous sentez cette note, merci de bien vouloir cocher dans une liste de 10 mots, de 2 fois 10 mots généralement, les mots auxquels ça vous fait penser de manière spontanée sans trop réfléchir. Et on essaie de vérifier et de valider que les clients, les consommateurs finaux, ressentent exactement la même chose et que l'évocation entre les valeurs clés et la note fonctionne.
Et que ça marche et que ça appelle quelque chose chez le consommateur.
Et que ça soit en quelque sorte un élément permettant de renforcer l'identité de la marque et de l'accompagner.
Bon,
généralement, on se trompe rarement parce qu'en amont, on a quand même une expertise assez considérable des choses et on arrive à trouver ce type de correspondance. Donc voilà grosso modo comment ça fonctionne. Alors c'est toujours un peu délicat parce qu'on est dans la subjectivité totale.
C'est ça.
Le parfum, ça génère des émotions.
Bien sûr.
Donc on doit faire face à un président d'entreprise qui lui va aimer un parfum boisé alors que son épouse va aimer un parfum floral. Ensuite on doit faire face à la direction marketing, on doit faire face aux magasins qui eux-mêmes sont d'accord ou pas d'accord. Donc il faut absolument sortir du j'aime pas parce que là on n'est plus du tout dans la science marketing. Il faut objectiver le rôle de la senteur par rapport à une marque. Est-ce qu'elle accompagne la marque ou est-ce qu'elle ne l'accompagne pas? Est-ce qu'elle, Est-ce qu'elle évoque, est-ce qu'elle porte les valeurs de la marque en elle-même par rapport au consommateur? Oui ou non? Et est-ce qu'elle est congruente? C'est un mot un peu barbare.
Oui.
Est-ce qu'elle est harmonieuse par rapport à la marque?
Ça doit rester très discret, cette senteur.
Oui, alors voilà.
Ça aussi, alors, c'est important.
Alors,
ça doit
là,
évoquer
c'est...
quelque chose, on est d'accord, chez le consommateur, qu'il aille à Hong Kong ou qu'il aille à Paris, mais ça doit rester discret.
Tout en étant soumis à des variations géographiques très importantes, et c'est là que notre positionnement mondial est tout à fait significatif. Bon, pour faire court, plus on descend vers le sud, plus la senteur doit être présente.
Mmh.
Plus on monte vers les pays du Nord, plus elle doit être subtile jusqu'à être quasiment imperceptible.
Okay,
donc entre la Suède et Dubaï, il y a une amplitude de 1 à 10. De 1 à 10.
Ouais. Okay,
bon. Là, on n'est pas du tout encore au stade de l'uniformité de la perception. Okay, alors, après, il y a un autre débat, c'est est-ce que la senteur d'une marque française qui s'exporte partout dans le monde, doit être elle-même exportée avec la marque.
Alors, la réponse
et la réponse est oui, parce que une marque, les éléments d'une marque, un magasin, un mobilier, des produits, des logos, ne peuvent pas être faits sur mesure selon que l'on soit en Asie ou à Dubaï ou en Europe. La French Touch, puisqu'on parle beaucoup de French Touch dans ce type de choses, elle doit être présente de Singapour à Dubaï en passant par Düsseldorf.
C'est-à-dire que le client qui va acheter à Dubaï, par exemple, dans une boutique française, va avoir envie de retrouver la même identité olfactive qu'à Paris.
Absolument. C'est en tout état de cause le souhait de la marque qui, parce qu'elle est marque, doit être la même partout dans le monde.
Ouais, absolument. Vous restez avec nous ?
Je vous en prie.
À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence, seconde partie de cette émission. Nous recevons Pascal Charlier, directeur général de Santer. Bonjour Pierre-Yves Révillon.
Bonjour Doris.
Première question à notre invité, que vous rappelle cette odeur justement?
Mais écoutez, d'abord c'est une découverte et je vous remercie de m'avoir fait découvrir ce monde, pas des odeurs, mais disons le marketing olfactif, je n'avais jamais entendu parler de cela, ce qui prouve qu'on apprend à tout âge.
Mais vous avez certainement senti des choses.
Alors, je suis allé sur votre site. Alors, j'ai découvert un catalogue des senteurs. Et pour nos auditeurs, j'en ai sélectionné trois, parce que c'est carrément de la poésie. Alors, il y a French Elegance, un parfum frais qui capture le luxe grâce à l'anis étoilé, du pomelo, de la poire européenne, du vétivier et du tabac blond. Une autre, pluie d'été.
Oui, qui est magnifique.
Une senteur tonifiante composée de basilic, d'eucalyptus et de menthe mélangée à du muguet et du frésia. Et enfin, une dernière, ça évoquera peut-être les vacances, retour au chalet.
Oui.
Entourez-vous du parfum réconfortant de cyprès, de cèdre et de bois de santal avec une touche de bergamote et de vétiver.
Vous avez été un très très bon choix en plus. Très très bon choix.
Mais tout de suite, je me suis dit, c'est un peu comme les couleurs, les goûts et les odeurs ne se discutent pas. Et donc, proposer un consensus dans un magasin avec une odeur, ça doit être très compliqué, parce que finalement, les odeurs, vous l'avez dit à un moment donné, ça peut créer des associations positives mentales, mais ça peut aussi créer des associations négatives mentales.
Absolument.
Comment
vous
gérez tout ça?
Alors, bon, d'abord, je voudrais revenir sur les trois exemples que vous avez choisis, qui sont excellents. Donc, déjà, vous avez pu remarquer que la meilleure manière de parler d'une senteur, c'est d'écrire et de faire de la littérature et d'utiliser un verbatim particulier pour que le client puisse se projeter mentalement dans
qu'il
ce
rêve.
Qu'il représente. Voilà. On ne peut pas, dans un catalogue, avoir des petites mouillettes ou des petites pastilles à gratter. Ça n'aurait aucun sens et ça démystifierait totalement les choses. Donc il faut, un peu à l'instar de la Madeleine de Proust, il faut se projeter, il faut rêver, il faut imaginer. Il faut que chacun puisse imaginer, à partir de mots, comment il peut intégrer cette senteur dans son propre espace. Alors, la deuxième question qui est très intéressante, c'est comment faire en sorte que la senteur diffusée dans un magasin génère un consensus. Bon, là, on fait appel à des choses qui sont un peu techniques. On va écréter, c'est-à-dire enlever de la totalité de nos senteurs les éléments qui peuvent être trop pointus, c'est-à-dire qui peuvent plaire à énormément plaire à 15% de la population et déplaire à la grande majorité. Donc, des notes trop poussées de patchouli, des notes trop florales qui peuvent provoquer des maux de tête sont immédiatement et toujours proscrites de la totalité de nos catalogues, de manière à être le plus consensuel possible. On a fait des analyses sur le sujet. On a 85% en règle générale de consensus de la part des clients sur nos senteurs et on a entre 10 et 12% d'indifférence. Et simplement 2 ou 3% de rejet.
Ah, d'accord.
Pas plus de 2 ou 3% de rejet. Parce qu'on est quand même dans la subjectivité. Il y a toujours des gens qui vont vous dire ça ne me plaît pas, je déteste. Mais l'indifférence prime sur le rejet pour la partie des clients qui ne sont pas favorables.
Mais vous intervenez, j'ai compris, dans le monde entier. Il y a des codes culturels, il y a des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des senteurs masculines, des senteurs féminines? Oui, probablement. Par exemple, aux États-Unis, qui est quand même un lieu où, que vous fréquentez beaucoup, est-ce que les standards sont les mêmes?
Alors là, c'est pareil, c'est une excellente question, parce que je quitte à me contredire sur ce que je disais tout à l'heure sur la marque, mais là, on parlait de marque, donc... je crois que il faut pas composer, on va pas faire une marque avec un logo différent au Japon et en France. En revanche, sur les senteurs, effectivement, on a vraiment des panels de goût et des panels culturels qui sont totalement différents. Alors pour schématiser un peu, aux États-Unis, pour être très franc avec vous, je trouve que les choses sont un peu excessives et très 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 axées sur la senteur gourmande, la senteur il y a du gingembre et de la cannelle dans 60% des composants. Ce ne serait pas du tout, à mon avis, compatible avec les normes européennes. En Europe, avec les nuances Europe du Nord, Europe du Sud, on est beaucoup plus dans la subtilité. On est beaucoup plus dans la subtilité, dans l'élégance. Okay. Et en Asie, on va travailler davantage sur des senteurs que l'on qualifie un peu d'aquatiques, de marines, des senteurs de source, des senteurs mouillés, qui sont très apaisantes, très relaxantes. On utilise dans notre jargon le mot de japonisante pour évoquer un peu cette zénitude. Et je sais qu'au Japon et dans un certain nombre de pays asiatiques, ils utilisent la senteur dans le cadre du travail. Dans les bureaux, et ils diffusent à des heures clés de la journée où ils savent que les gens ont besoin de se reposer ou au contraire d'être tonifiés, ils diffusent des senteurs qui ont des vertus aromathérapeutiques, précisément, ou aromacologiques, pour précisément que le personnel soit dans une forme différente. Ce qui n'est pas du tout utilisé en Europe, parce que la senteur n'est pas la bienvenue dans le monde des open space et du travail, à ce jour.
À ce jour.
À ce jour.
Mais si j'ai bien compris, il s'agit de contribuer à une image pérenne de l'entreprise, à une image stable de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une lassitude autour des senteurs? Est-ce que les goûts peuvent évoluer? Quelle est la durée de vie d'une senteur dans un magasin?
Alors, généralement, pour éviter ce phénomène qui existe, c'est incontestable, on préconise de faire des changements de senteur hors marque, des changements de senteur au moins 2 fois par an, d'avoir une senteur d'été et une senteur d'hiver. Ça, c'est très important, à la fois pour briser le risque de lassitude et aussi pour se caler dans les variations hygrométriques et dans les variations de température. On ne diffuse pas les mêmes choses en termes d'accueil, de chaleur humaine entre maintenant et le mois de décembre. Okay ? En ce qui concerne la signature olfactive de la marque, moi, je considère qu'elle a environ une durée de vie de 3 ans. Et au bout de 3 ans, on a une lassitude du personnel, qui est un élément très important dans la signature olfactive. Et puis, tout va tellement vite sur le marché à l'heure actuelle que rien n'est éternel et rien n'est durable. Donc, il faut automatiquement, au détour d'une refonte d'une architecture ou d'une refonte d'un logo, il faut recommencer à travailler.
Est-ce qu'une odeur peut en cacher une autre? Alors, par exemple, je pense au club de sport. Il y a de cela quelques années, ou encore dans certains clubs de sport, il y a de fort mauvaises odeurs. Vous pouvez travailler là-dessus,
sûr. Là, on est aux confins de notre métier. On n'est plus dans le marketing olfactif, on est dans dans la couverture d'un mauvais marketing olfactif, parce que, comme monsieur l'a dit tout à l'heure à juste titre, il y a des souvenirs et des émotions positives, mais aussi des émotions négatives.
Là, c'est le cas, oui.
Quand vous rentrez dans un endroit où il y a des nuisances olfactives, vous gardez ça présent à l'esprit.
Oui, c'est vrai.
Et à chaque fois que vous allez revenir ou que vous allez en parler, vous n'aurez que ça en tête. Okay, oui. Donc, il est très important, pour éviter la contribution négative de ce marketing olfactif négatif, de couvrir ces mauvaises senteurs ou de les détruire. Donc on a là aussi des produits qui permettent de neutraliser la molécule malodorante et de la couvrir avec des choses à base d'agrumes ou de menthe fraîche ou des choses comme ça. C'est d'ailleurs une technique qu'on utilisait beaucoup dans les parkings, dans les cages d'escalier des parkings, dans les fitness à l'heure actuelle. Alors pour revenir au parking, c'est pas forcément dans un objectif d'assainissement. Alors évidemment, c'est mieux que l'endroit sente bon que mauvais, bien entendu. Mais la vraie volonté des grands réseaux de parking, c'est de combattre l'association qui existe entre la mauvaise odeur et le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que quand une cage d'escalier est un peu noire, un peu sombre, et qu'en plus ça sent mauvais, la clientèle féminine en particulier associe ce contexte à de l'insécurité grandissante et ne fréquente plus le parking à cause de ça parce que ça augmente sa peur. Donc la diffusion d'une senteur va diminuer le sentiment d'insécurité et accessoirement rendre l'espace plus accueillant.
Dans les aéroports, par exemple ?
Dans les aéroports, ça permet de déstresser. Alors, on n'en a pas énormément qui sont équipés encore à l'heure actuelle parce que c'est un challenge. Mais par contre, le nombre de demandes sur lesquelles on travaille me laisse penser que c'est un marché pour demain. On va travailler beaucoup sur la zone de réception des bagages. Pour permettre aux clients d'être zen, et parce que c'est un moment pénible qui dure parfois trois quarts d'heure, les contrôles de passeport et la zone de bagages. Et puis ça permet aussi de donner aux voyageurs qui atterrissent une image positive du pays dans lequel ils arrivent et non pas une image de paperasse, de contraintes, d'attente et de temps perdu.
Ouais, c'est vraiment très très puissant, il disait en première partie.
Oui, c'est assez puissant. Et moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier et j'ai vraiment assisté aux grandes évolutions de la demande. Et aujourd'hui, on a une maturité des commerçants et des marques face à ce type de pratique qui n'était pas du tout la même chose dans les années 90, enfin la fin des années 90. Aujourd'hui, c'est réfléchi, c'est intégré, ça fait partie de manière quasi mature du mix marketing des grandes enseignes et même de beaucoup de points de vente indépendants. Et quand un client adhère au dispositif, il est très très rare qu'il arrête.
C'est ça, qu'il fasse marche arrière.
Absolument, absolument.
Mais vous voulez dire que c'est quand même un marché encore en devenir, qui n'est pas arrivé à maturité. Vous parliez notamment des aéroports.
Alors, je n'ai pas de statistiques officielles parce qu'il n'en existe pas, mais bon, je pense que le parc de points de vente, et quand je parle de points de vente, je devrais aller beaucoup plus loin, le parc d'espace ouvert au public en France est équipé à concurrence peut-être de 3 ou de 5%. C'est-à-dire qu'il reste un potentiel de développement absolument considérable. Parce qu'on parle du commerce, de la partie commerciale, mais il y a toute la partie médicale. Les chirurgiens dentistes, les laboratoires d'analyse, les médecins qui aujourd'hui, eux aussi sont dans un contexte de concurrence, eux aussi sont dans un contexte dans lequel ils doivent donner du confort à leurs clients, doivent se différencier de leurs confrères ou de leurs concurrents, se regroupent en cabinet de plus en plus. Donc ils doivent avoir une salle d'attente, de la musique, ils doivent détendre leurs clients. Les clients ne doivent pas se poser de questions. La prochaine fois, ils doivent revenir chez le même praticien. Donc là aussi, il y a un marché très très important en France, qui aujourd'hui n'est pas encore attaqué et qui est très, très, très dynamique aux États-Unis, par exemple.
Dans les pharmacies, par exemple, sent le médicament.
Alors, justement, la pharmacie est un excellent exemple si on veut prendre, si on veut le prendre comme une référence, on va dire, marketing. Si vous rentrez dans une pharmacie et que ça ressemble sur le plan émotionnel et sur le plan sensoriel, en tout point, à une pharmacie. Donc si, entre guillemets, ça sent la pharmacie, votre mental va être fermé, en quelque sorte, et vous allez exclusivement avoir l'idée, parce que vous aurez des œillères, de vous faire délivrer une ordonnance. Donc de venir dans cette pharmacie pour acheter des médicaments, parce que ça sent la pharmacie, donc quelque part, un peu, un endroit médical. Et donc vous ne fréquenterez l'établissement que parce que vous êtes malade pour vous soigner. Point. Et vous n'aurez pas forcément le réflexe mental, inconscient, de regarder autour de vous d'autres produits que ceux pour lesquels vous êtes rentré, antibiotiques, etc. Si en revanche, la pharmacie n'est plus organisée comme une pharmacie en termes de parcours client, sur le plan sensoriel, si ça ne sent plus la pharmacie, dans ce cas-là, vous allez vous décloisonner, l'esprit, bien entendu, et vous allez regarder autour de vous des produits qui ne sont pas forcément en liaison avec la pharmacie, tout en continuant de bénéficier de la caution pharmaceutique qui est très importante, et vous allez découvrir des produits cosmétos, dermatos, de parapharmacie, et vous allez vous rendre compte que finalement ils ne sont pas forcément plus chers que ce que vous auriez dans la grande distribution, et que vous avez du choix, et que vous avez ceci et cela.
On sera plus ouvert en fait, effectivement.
Absolument.
Pierre-Yves.
Ce qui m'intrigue, c'est qui travaille dans votre entreprise, parce qu'il doit y avoir des métiers très particuliers, il faut avoir du nez, non?
Oui.
Sans faire de jeu de mots.
Bon, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup polarisé notre sujet sur le parfum, bon, qui est évidemment la matière première de notre entreprise, c'est évident. Donc, on a des compétences, hein, on a un laboratoire de parfumeurs et d'ingénieurs chimistes aux États-Unis qui sont là pour assurer aussi toute la partie sanitaire et toute la partie réglementaire qui est très 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 lourde et très contraignante. On a en France deux évaluateurs dont le rôle est de choisir la senteur par rapport à la nature du client et à la nature de son besoin. Et on a bien entendu des partenariats stratégiques et historiques avec des parfumeurs à Grasse qui, eux, vont fabriquer le concentré final. Mais je serais tenté de dire que même si on a beaucoup focalisé notre attention dans cette interview sur le parfum, il y a mille métiers autour du parfum sur notre marché. Il y a un travail considérable à faire au niveau commercial, un travail considérable à faire au niveau marketing. Il faut être capable de développer le concept, de l'évangéliser, de collecter des clients qui sont intéressés, de les convaincre. Il y a un très très gros travail de gestion parce qu'on travaille beaucoup avec des contrats sur 3 ans ou 4 ans, donc il faut servir les clients tous les mois. Il faut les faire évoluer, il faut les suivre, parfois en Europe complète. Donc, il y a des techniciens très pointus sur le parfum, il y a aussi des compétences commerciales, marketing et de gestion, comme dans toute entreprise.
Toute dernière question, Pierre-Yves.
Vous faites que du catalogue ou du sur-mesure?
Alors,
aussi
les deux. Pour le client lambda, un magasin de prêt-à-porter ou un petit hôtel, bien entendu, il va choisir un parfum dans un catalogue. Et pour une marque ou un client qui a un fort potentiel, on va travailler sur mesure.
Pascal, je ne vous demanderai pas quel est votre parfum. C'est un mélange de tout un peu, c'est ça.
Voilà.
Merci à vous.
Merci infiniment
d'avoir été notre invité dans le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.